C'est le temps maintenant de faire le tour du Canada francophone avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Salut Julien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on s'en va parler de l'immigration francophone qui fait face à des défis systémiques selon Franco-Presse, justement.
Oui, on a écouté une présentation de l'Observatoire de l'immigration francophone au Canada qui, de son côté, a mené une enquête auprès de personnes immigrantes francophones nouvellement arrivées au pays. Ce questionnaire-là a été distribué au printemps. Puis, bon, l'échantillon est assez petit, mais ils sont quand même capables d'extraire certaines données de cette première phase de l'enquête-là. Puis, ils ont trouvé qu'il y a 5 grandes barrières systémiques, donc reliées à la façon que le système fonctionne, à l'immigration francophone. C'est surtout des barrières linguistiques, administratives, juridiques, financières et aussi liées à la reconnaissance professionnelle qu'ils avaient dans leur pays. Par exemple, il y a seulement 72 % des répondants qui ont indiqué avoir reçu des services en français lors de leur processus d'immigration, là, donc quand ils étaient encore dans leur pays et qui essayaient de remplir leur demande. Il y a environ 54 %, donc un petit peu plus que la moitié, qui ont passé plus de 6 mois à récolter de l'information, des documents pour leur demande. Puis, encore là, pas loin de la moitié, mais 44 % ont attendu 6 mois ou plus pour obtenir une réponse. Donc, c'est beaucoup de temps à passer pour faire ça, ce qui peut être un peu décourageant. Il faut vraiment être convaincu. Ce qu'ils constatent en partie, c'est que toutes ces barrières-là sont, oui, difficiles individuellement, mais quand elles s'accumulent, qu'elles s'entrecroisent pour différentes raisons, bien, ça complique encore plus le processus. C'est pas la fin de l'étude. Il y a une deuxième phase qui va être lancée très bientôt là, pour approfondir certaines de ces données-là.
On s'en va en Nouvelle-Écosse maintenant. Les obstacles à l'éducation en français est dénoncé par le Conseil scolaire francophone de la Nouvelle-Écosse. Ça vient du courrier, justement, de la Nouvelle-Écosse.
Oui, le Conseil scolaire acadien provincial a récemment publié un rapport sur l'état de l'éducation en français dans cette province-là. Puis une des données qui ressort, c'est qu'on trouve que le nombre d'élèves qui fréquentent les écoles en francophone par rapport à ce qui est potentiellement possible et une grande différence entre les deux. C'est qu'il y aurait environ 25 000 enfants qui seraient admissibles aux écoles francophones de la Nouvelle-Écosse, mais le conseil en accueille seulement 6 700. Donc, c'est une petite tranche de ce nombre d'élèves qui auraient le droit. Avoir plus d'élèves, ça pourrait résoudre quelques-uns de leurs problèmes. Par exemple, il y a des gros défis. Un des gros défis soulignés dans le rapport, c'est la distance et le temps de déplacement pour aller à l'école. Selon les règles, les élèves ne doivent pas se déplacer plus qu'une heure le matin et une heure l'après-midi. Quand même, déjà beaucoup. Mais si on vit loin comme ça de l'école, ben ça peut décourager la participation aux activités parascolaires parce que bon, les parents ne peuvent pas aller nous chercher si loin que ça, si on n'a pas pris le transport scolaire, etc. Et on sait que participer à des activités parascolaires en français, ça aide à intégrer davantage la langue. Là, puis que ça devient autre chose qu'une langue d'éducation.
Tout à fait.
De l'autre côté, les écoles francophones des grandes villes comme Halifax sont surpeuplées. Il y a trop de jeunes pour la taille des écoles. Et qu'on cherche, ce qu'aimerait avoir le conseil scolaire, c'est une formule de financement différente de celle des conseils francophones parce que les besoins sont différents, là, comme on vient de l'expliquer un peu. Les écoles sont, surtout celles de quartier, sont de région, sont plus petites. Il y a donc moins d'économies d'échelle à faire, donc on ne peut pas calculer les choses de la même façon. À partir de ce rapport-là, ce que sert le conseil scolaire, c'est de s'asseoir avec le gouvernement pour justement discuter un peu des solutions.
On va aller au Nouveau-Brunswick qui va réviser sa loi sur les langues officielles selon l'Acadie Nouvelle.
Le gouvernement a décidé de lancer ce processus de révision-là. C'est un comité qui va se baser sur, en fait, un rapport qui a été fait en 2021 puis qui comportait déjà plusieurs recommandations. Mais il y en a peut-être qui s'en rappelleront, mais quand ce rapport-là est sorti en 2021, bien, le premier ministre de l'époque, Blaine Higgs, l'avait presque totalement ignoré. Il n'en avait pas tenu compte. Il avait appliqué, je crois, aucune des recommandations. Fait que le nouveau comité va tout simplement partir de là. Il devrait remettre son propre rapport en 2026. On souligne que le rapport de 2021 suggérait de réviser la loi plus souvent, c'est-à-dire tous les 5 ans. Ça va revenir à ça, je pourrais être d'accord avec cette étude-là. Là. Donc, 5 ans plus tard, on a une nouvelle évaluation de la loi. On suggérait aussi notamment de créer un ministère du linguisme, de la langue française. Ça n'a pas été fait, il y avait seulement un secrétariat. En ce moment, c'est la première ministre, Susan Hope, qui est responsable des langues officielles. De fonder des associations francophones et même des partis d'opposition au Nouveau-Brunswick. On est très content de cette nouvelle-là.
Je me permets un aparté dans ce qu'on avait prévu, mais je sais qu'il y a aussi eu la nomination par Justin Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada, d'un lieutenant-gouverneur unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick. Ça a soulevé un tollé, et c'est devant la Cour suprême, hein, d'ailleurs. Il y a eu la nomination de Louise Imbeault depuis ce temps-là, mais c'est devant la Cour suprême à savoir si ces postes-là ne devront pas être aussi tenus par des personnes qui parlent les deux langues officielles. Là, c'est intéressant.
Oui. Ouais. Effectivement, ça va être entendu demain. On va falloir attendre quelques semaines pour un jugement là-dessus.
Tout à fait. Alors, excuse-moi, j'ai sorti du sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Il y a une foire de l'emploi bilingue qui est très courue. C'est l'Express de Toronto qui en parle aujourd'hui.
Que de leur côté, le journal Le Droit, là, dans les mêmes dates, nous informait que selon des données de Statistique Canada, Ottawa a surpassé Toronto comme ville préférée des immigrants francophones au Canada, à l'extérieur du Québec. De son côté, l'Express nous parle que c'est difficile de trouver un emploi en français à Toronto. La semaine dernière, il y a eu une foire d'emploi bilingue qui était organisée par le Centre francophone de Toronto. L'événement a connu une participation record, là, parce que c'était pas le premier. Les inscriptions en ligne ont dû être stoppées, bloquées, parce qu'à un moment donné, ils ont atteint 1500 personnes, puis leur lieu avait pas plus de place, pas de place pour plus de gens que ça. Puis à l'ouverture des portes, il y avait déjà 200 personnes qui attendaient pour rentrer. Puis ils se sont formés assez rapidement devant certains kiosques. Que les organisateurs disent, c'est qu'ils sont vraiment surpris. Actuellement, le taux de chômage à Toronto est de 9,5%, qui est supérieur à la moyenne de l'Ontario et du Canada. Là, on a eu des nouvelles la semaine dernière qui était autour de 6%. Parmi les chômeurs, les francophones unilingues sont une minorité dans la minorité à Toronto. Donc, ils rencontrent encore plus de difficultés pour se trouver un emploi.
Et puis, c'est pas facile de poursuivre son engagement dans la francophonie en tant qu'adulte. C'est ce que rapporte le Franco de l'Alberta.
Bon, vous en avez parlé un peu il y a quelques semaines là, autour d'une entreprise francophone qui avait fermé à Ottawa, qui travaillait sur la construction identitaire. Mais là, l'Association canadienne-française de l'Alberta poursuit un peu cette réflexion-là lors d'un panel qui a eu lieu pendant son assemblée générale annuelle en octobre. Il y a trois panélistes qui avaient des parcours et des visions différentes. Il y avait entre autres Yvette Yakipongé qui offre une piste de solution, c'est-à-dire pour que les jeunes puissent continuer à s'intégrer jusqu'à l'âge adulte. Puis sa solution, c'est de commencer très jeune. Elle dit que dès 8 ans, elle faisait du bénévolat en français, puis ça n'a pas été difficile de rester engagée quand elle a terminé son secondaire. De l'autre côté, il y avait Adam Brown qui lui a fait son éducation dans le système d'immersion. Il souligne que oui, dans ce système-là, il y a moins d'occasions de connaître et de connecter avec la culture francophone, parce que c'est pas nécessairement le but du programme. C'est en arrivant au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta qui a pu découvrir la communauté et la culture francophone de l'Alberta. Ça lui a permis de se créer des connexions et des amis, puis d'intégrer la communauté francophone. Et aujourd'hui, il en fait partie, puis il travaille là-dedans. Il fait aussi remarquer que l'impression de certaines personnes, des jeunes de l'immersion, mais il peut en avoir d'autres aussi, que leur français n'est pas assez bon, ça peut être une barrière à intégrer la communauté francophone. Enfin, il y a une enseignante, Nadan Sultan, qui enseigne à Fort McMurray, qui affirme que de rester connecté à la francophonie dans les enfants comme Melbourne, Calgary ou d'autres pays, ça peut être un peu plus facile d'être plus organisé.
Oui, on a un petit problème de communication. Là, je vais juste reprendre. On parlait de Ladan Sultan, qui est enseignante à Fort McMurray, qui dit que c'est plus facile dans les grandes villes que dans les petites villes, c'est ça?
C'est ça, exactement. Dans les grandes villes, il y a un organisme qui travaille dans ce sens-là. Dans les petites villes, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de gens, il y a moins d'organismes. Donc, de la place et les enseignants pas trop. Donc, c'est un peu plus pour que les jeunes restent engagés et se connectent à la langue française.
Oui, alors Julien, je vais vous demander de rester où vous êtes parce que là, la communication est bonne, on a des petits problèmes. On termine avec la rencontre pan-territoriale sur l'éducation postsecondaire en français qui nous vient de l'Aurore boréale.
Je vous en ai déjà touché un mot l'année dernière, c'est que le travail se poursuit pour l'élaboration d'un système d'éducation postsecondaire en français dans les trois territoires canadiens. Cette fois-ci, c'est le Collège nordique des territoires du Nord-Ouest et l'Association franco-yukonaise qui se sont rendus au Nunavut pour rencontrer les gens de l'Association des francophones du Nunavut pour, bon, et oui, découvrir les particularités de ce territoire-là pour les francophones, mais aussi poursuivre les discussions sur la forme que pourrait prendre leur collaboration. Puis, ce serait une collaboration unique en son genre parce qu'il n'y a pas d'autres établissements postsecondaires au Canada qui a vraiment... il y a des collaborations en province parfois, mais il n'y en a pas un qui couvre plus qu'une province ou un territoire. Donc, les trois travaillent là-dessus de façon acharnée. Là, et on dit qu'on est rendu à l'étape où la prochaine étape, ça va être de présenter les modèles qui pourraient être mis en place.
Bien, Julien Caillouette, qu'on rejoint donc à Franco-Presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.